Bonjour tout le monde, bienvenue au 9e épisode d'A priori sur les ondes de chez 94.3. Je suis votre animateur Anthony et je suis accompagné aujourd'hui d'Émile et de Charlotte qui vont nous parler des jeunes diplomates du Canada. Salut à vous deux.
Allô Anthony.
Comment ça va aujourd'hui?
Très bien toi.
Donc je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Je voudrais savoir c'est quoi que vos implications au sein du BIAPRI, vous êtes rendu au BIAPRI, puis pourquoi vous avez décidé de faire les jeunes diplomates du Canada cet automne, comme on a pu voir. Donc, je laisse la parole pour ça.
Oui, donc, allô, moi je m'appelle Charlotte, je suis à ma deuxième année au BIAPRI et je suis un peu impliquée, j'ai été impliquée dans les comités l'an passé et cette année, comme je m'en vais en session à l'étranger, j'ai pas beaucoup d'implication au sein du BAC, mais la raison pourquoi j'ai décidé de faire la délégation de Jeunes Diplomates Canada, c'est vraiment parce que, premièrement, je l'ai vu passer sur le fil Facebook du BIAPRI, qui avait cette opportunité-là, puis moi, durant ma première année, j'étais pas vraiment satisfaite avec mon implication, dans le sens que j'avais même pas fait de la CIF nulle parce que j'étais stressée de pas avoir les compétences pour. Là. Je pense que c'était okay. Un peu un syndrome de l'imposteur de moi qui rentre à l'université. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, c'est mon moment. Je vais pouvoir m'investir dans quelque chose là, qui va me faire sortir de ma zone de confort. Fait que c'est vraiment pour ça. Là. J'ai pas trop pensé, je me suis inscrite, puis ça a bien donné, finalement.
Moi, c'est Émile Cloutier. Je suis aussi comme Charlotte en deuxième année de bac. Je suis impliqué dans l'asso en tant que vice-président aux finances. J'ai aussi fait plein d'autres implications comme la CIF nulle comparativement à Charlotte, mais j'ai fait la DULSPEC, l'assimilation du Parlement européen. Puis c'est vraiment comme Charlotte, on a vu passer la publication sur Facebook. Là, on remercie Chloé d'avoir fait le message. Puis ben ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis ben je me suis dit que je voulais tenter ma chance parce que puis aussi ben j'ai choisi l'OMC. Là, on va en parler plus tard. Mais j'ai choisi l'OMC parce que j'ai toujours trouvé que c'était un sujet qui était un peu abstrait pour moi parce qu'on connaît cette organisation-là, on sait que ça touche l'économie, le commerce, mais c'est aussi un sujet qui est très important en relations internationales puis dans notre bac, mais c'est assez niché. Puis je voulais vraiment aller sur place pour comprendre un peu. Puis c'est aussi d'actualité avec toutes les guerres commerciales qu'il y a, exemple, entre la Chine et les États-Unis. Puis aussi, ben, il y a le blocage de l'organe d'appel. Donc, voilà.
Donc, on voit que tu es déjà quand même assez intéressé par l'OMC, donc c'est un peu pour ça que tu as dû le choisir. Hein. Mais donc, pour continuer, les jeunes diplomates du Canada, ça fait quoi dans le fond? C'est quoi leur objectif à eux, puis pourquoi ça existe?
Ben, en fait, les jeunes diplomates du Canada, c'est une organisation qui est à but non lucratif et qui est non partisane, est vraiment dirigée directement par des jeunes, puis est pour des jeunes, pour leur donner vraiment la chance et les moyens de pouvoir contribuer un peu à la prise de décision mondiale, puis d'avoir une expérience. Donc, assez couramment, chaque année, ils envoient plusieurs délégations à des sommets des Nations Unies. Là, je pense à la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes ou le Forum permanent des Nations Unies sur la question sur les questions autochtones, ou comme Charlotte, elle, c'est au FMI, moi à l'OMC. Actuellement, ils travaillent en collaboration avec le Affaires mondiales Canada
okay.
pour mettre sur place le Youth 7, que c'est un groupe d'engagement officiel du G7. Puis la conférence cette année va se passer à Ottawa. Donc, c'est vraiment pour former la jeunesse, les diplomates de demain plutôt.
Puis c'est quand même le fun, je vois qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de où ce qu'on parlait. C'est comme il y a l'OMC, le FMI, puis toutes les autres que tu as nommées. Là, c'est quand même pas pire. Ça permet de comme... Tu sais, comme dans nos études, sûrement, on étudie ces institutions-là, de pouvoir les voir en vrai, ça, c'est quand même une belle opportunité, je trouve, quand même. Donc, pour continuer un peu, c'est quoi vous faites au sein de justement des jeunes diplomates du Canada? Tu sais, il y a comme votre voyage un peu dans ces institutions-là, mais y a-t-il d'autres tâches aussi qu'il faut que vous fassiez pour ça, dans le fond?
Oui, bien, plus concrètement, là, le rôle des délégués, c'est qu'on doit participer aux rencontres, mais il faut se préparer surtout aussi. T'sais, on est une délégation de comme 6 personnes environ, puis on se rencontre plusieurs fois avant la rencontre annuelle pour préparer nos objectifs, nos priorités. Il faut aussi rencontrer plusieurs parties prenantes, là, c'est-à-dire des gens qui sont comme impliqués, qui travaillent dans ces domaines-là. Fait que, par exemple, moi j'étais au FMI, Banque mondiale, fait qu'on a rencontré des gens qui travaillent dans des banques, des gens dans le domaine des finances. Fait que aussi des experts, des chercheurs, des gens vraiment impliqués dans le domaine. Fait qu'on veut les rencontrer avant les sommets pour arriver là déjà comme instruits puis connaissants de ce qui se passe, mais aussi pendant la semaine. Fait qu'on avait quand même organisé des rencontres avec des vice-présidents comme la Banque mondiale, par exemple, pour, tu sais, c'est ça qui nous explique c'est quoi, jour le jour, leur job, à quoi ça ressemble, puis aussi ils peuvent donner des conseils sur comment se rendre dans ces milieux-là, comment, juste comment ça se passe en gros, parce que c'est difficile à dire, là, on rencontre pas des gens comme ça tous les jours.
Non, ça doit, hein?
Ouais, mais ou sinon, tu sais, on assiste aux conférences durant la semaine, on prend des notes, puis on fait beaucoup, beaucoup de réseautage. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'espace pour faire un peu du networking, là, on dit.
Ouais, mais ça doit être pratique pour ça, là, c'est normal.
Puis, durant ces périodes de réseautage-là, tu peux rencontrer des gens aussi qui travaillent dans le domaine, qui sont intéressés par les mêmes enjeux que toi, et que c'est pas mal ça concrètement, je
sais. OK, puis le fait de rencontrer des personnes puis de faire du réseautage, ça va sûrement donner des belles opportunités pour l'emploi plus tard. Là,
vraiment. Tes ajouts sur LinkedIn.
Ouais,
là.
C'est ça. ça doit augmenter ta liste de contacts LinkedIn puis des contacts qui sont pas négligeables quand même. Hein.
Fait que pour quelqu'un qui est intéressé à travailler dans ce domaine-là plus tard, faire les Jeunes Diplômés Canada, ça t'ouvre vraiment beaucoup de portes. Fait que c'est pour ça que c'est autant... est convoité. Là. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'inscrire à ça puis participer à la délégation.
Super. Donc, maintenant, je te demanderai, Émile, si tu pourrais un peu nous présenter le fonctionnement de l'OMC. Dans le fond, puis qu'est-ce que tu as fait là-bas, dans le fond?
Oui, très, très brièvement, là, l'OMC, c'est très complexe, mais en fait, l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, puis c'est vraiment une institution... international qui a été créé en 1995. Puis ça, c'est suite à l'accord de Marrakech qui a remplacé l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le fameux GATT, qui datait de 1947. Puis ça vise vraiment à promouvoir le libre-échange, limiter toutes les barrières commerciales, résoudre les différends commerciaux, puis vraiment faciliter la négociation pour réduire les obstacles au commerce. Puis, par exemple, ça peut être des droits de douane ou n'importe quelle subvention des gouvernements pour encourager le commerce. Puis, aujourd'hui, avec ses 154 pays membres, l'OMC est considéré comme étant member-driven, c'est-à-dire que le fonctionnement est très démocratique, puis les décisions majeures sont tous prises par consensus lors des conférences ministérielles ou genre au Conseil général. Mais ça, c'est vraiment en termes des objectifs et le rôle de l'OMC. Il y a plein d'autres principes comme le principe de la non-discrimination, etc., ou la nation la plus favorisée. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là.
De toute façon, on les apprend au BIAPRIS, environnement économique, international, puis institution internationale. Je pense qu'ils nous forment assez bien là-dessus.
Oui, exactement. Mais plus concrètement, moi, qu'est-ce que j'ai fait à l'OMC? Je suis allé au Forum public. Puis ça, c'est un événement annuel qui sert de plateforme pour des discussions ouvertes sur les enjeux actuels du commerce, puis vraiment l'évolution récente de qu'est-ce qui se passe sur la scène mondiale. Puis c'est un peu un moyen pour l'OMC d'ouvrir ses portes à la société civile. Puis, dans le fond, il y a des experts, il y a des représentants de gouvernement qui participent à plein de panels. Puis il y a aussi ils présentent des enjeux importants qui sont reliés à la thématique. Cette année, la thématique, c'était vraiment la remondialisation, un meilleur commerce pour un monde meilleur. Donc, sur place, on avait sélectionné, comme je te dis, avant dans nos rencontres, on a sélectionné des sessions qu'on voulait assister puis des panels qu'on voulait aller. Puis, on a dit, la session 77, elle nous intéresse, on va y aller. Ça parle des enjeux autochtones, c'est relié, c'est organisé par le Affaires mondiales Canada. Donc, ça, c'est pertinent. On va avoir des personnes qu'on peut rencontrer, qu'on connaît, qu'on connaît pas vraiment, on les connaît pas, mais on a un lien avec eux, ça va être facile d'aller faire du réseautage. Après ça, tout l'agenda qu'on s'est construit, on l'a construit autour de certains objectifs, comme on voulait toucher au commerce inclusif. On va aller assister à des panels sur le commerce inclusif. On est allé voir plein de panels de haut niveau. Il y a la directrice générale qui présente le nouveau WTO report. Donc, on va aller l'assister voir parce que c'est comme chaque année, ils lancent un rapport spécial. Puis, on va aller voir le launch de ce rapport-là. Donc, on est allé. Puis aussi, sur place, on rencontrait plein d'autres stakeholders. Donc ça, c'est les parties prenantes, mais c'est le nom usuel qu'on utilise, comme la directrice adjointe de l'Organisation mondiale du commerce, Joanna Hills. On est allé la rencontrer dans son bureau. On a discuté un peu de nos priorités. C'était quoi le ressenti de l'OMC vis-à-vis de la jeunesse, puis comment ils voulaient l'implémenter dans leur organisation. On a rencontré plein de panélistes, leur discuté un peu, posé des questions. Donc, sur place à l'OMC, c'est vraiment ça qu'on a fait au Forum public. Donc, c'était vraiment du réseautage, puis de la collecte d'informations pour rapporter au pays, puis
okay.
pour refaire notre rapport qu'on fait à la suite.
Vous représentez aussi un peu la jeunesse.
Oui,
je pense
c'est ça.
Que ça permet d'un peu influencer les décisions, peut-être?
Oui, ben c'est un peu pour... Parce que dans tous les cas, au Forum public, il n'y a pas de décisions qui sont prises. C'est vraiment okay. une activité de partage d'informations puis de plein de conférences. Mais avoir une présence en étant là, ça fait comme démontrer un peu le fait qu'on est pertinent, on est impliqué, puis on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe. Puis ça fait comme envoyer un message dans tous les cas. Juste la présence d'être là, ça envoie un message. Puis ben eux, généralement, sont vraiment contents de voir des jeunes dans le monde international parce que ça montre, ah, ben il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Puis on voit qu'on peut avoir un impact positif. Puis c'est généralement ça que les organisations internationales ont de la difficulté à faire. C'est vraiment de démontrer qu'ils ont un impact positif puis qu'ils veulent aller chercher les gens puis les intéresser parce qu'ils sont très critiqués aujourd'hui. Ça, surtout avec le protectionnisme, mais ça, j'en parlais un petit peu plus tard.
C'est ça, surtout aux États-Unis, comme on voit,
oui.
avec la hausse du protectionnisme depuis l'élection de Donald Trump, en plus.
Exactement.
Mais c'est ça, puis ça permet aussi les jeunes, mais qu'il y a des jeunes qui soient là, ça permet de montrer un peu qu'il y a de la relève, qu'il y a du monde qui s'intéresse à ça sûrement, tu sais, pas que c'est juste des personnes plus âgées, c'est comme si c'était plus une affaire de vieux, tu sais, je pense qu'on
ouais.
peut montrer vraiment que ben ça nous intéresse, on étudie là-dedans en plus, c'est une bonne chose qu'on puisse le montrer justement, que c'est pertinent.
Ouais, exactement.
Donc, maintenant qu'on a parlé de l'OMC, j'aimerais ça qu'on parle aussi ton implication, Charlotte, au FMI. Peux faire comme Emile a fait, nous expliquer un peu c'est quoi puis qu'est-ce que tu as fait là-bas.
Mm-hmm. Oui, ben en fait, moi, ce qui est un peu mélangeant là, au début, c'est que c'était le FMI et aussi la Banque mondiale.
Okay.
Fait que c'était des rencontres annuelles qui se passaient en même temps pour les deux organisations. Fait que je vais un peu expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Donc, le Fonds monétaire international, c'est vraiment plus du niveau macroéconomique. Les pays ensemble veulent s'assurer qu'il y a une bonne coopération monétaire internationale. Puis qu'il n'y ait pas de pays qui tombent en crise financière. Fait qu'ils veulent vraiment s'assurer que ça reste stable. Puis je pense que c'est dans l'intérêt de tous les pays que justement, il y a une bonne stabilité monétaire, financière dans le monde. Comment ça se passe, plus concrètement, comment ils arrivent? Ben, c'est en faisant des prêts ou tout type d'aide financière pour les pays qui sont dans le besoin ou les pays qui sont plus pauvres. Fait que ça, c'est comme il y a un fonds d'argent qui réunit l'argent, surtout ben, principalement des États-Unis puis des pays plus fortunés. Qui vont ensuite tout mettre ça ensemble et puis le redonner. Et ils ont comme leur propre monnaie. Là. J'ai oublié le nom de la monnaie précisément. Mais en tout cas, tout ça pour dire que...
C'est pas les codes-parts, je pense.
Codes-parts?
Non, c'est non. pas ça le nom, mais aussi, il y a un système de codes-parts au FMI.
Il y a un petit nom, là, cette monnaie-là. En tout cas. Mais dans le fond, moi, ce qui m'intéressait beaucoup du Fonds monétaire international, c'est la dynamique entre les États-Unis et les autres pays. Parce que justement, comme c'est eux qui amènent le plus d'argent, ils ont plus de droits de vote. Ce qui fait en sorte qu'ils ont un droit de veto au sein
de
l'organisation.
C'est vrai, comme on a vu en institution internationale.
Mais moi, je me demandais, avant d'y aller, tu sais, est-ce que c'est tabou le droit de veto? Est-ce que les gens y en parlent?
Ouais.
Est-ce que c'est reconnu? Comment les autres pays membres se sentent par rapport à ça? Parce que c'est ça, c'est quand même 191 pays membres. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller là, à Washington. C'est vraiment pour ça. Et ce que j'ai réalisé, tu sais, durant ma semaine là-bas, c'est que les gens en parlent vraiment ouvertement. Là.
Okay.
Ils sont comme, oui, le droit de veto américain, puis c'est très...
Donc, ton hypothèse, c'est...
Ils sont d'accord avec ça. Les États-Unis amènent de l'argent, donc ils sont d'accord avec le fait qu'il y a un droit de veto. Mais il y a aussi la Banque mondiale. Puis la Banque mondiale, elle, ça va vraiment être plus une organisation qui va vouloir développer les pays plus pauvres. Alors que, c'est ça, FMI, c'est plus garder une stabilité. Banque mondiale va s'occuper de faire des projets dans des pays qui sont en voie de développement. Fait que leur mission principale, c'est d'éradiquer la pauvreté puis de favoriser une prospérité vraiment partagée sur une planète viable. Vivable, ouais. Fait que ils organisent des opérations de financement pour porter appui aux pays qui en ont besoin. Fait que ça va prendre plusieurs formes là, de financement ou de projets. On va voir beaucoup là, d'investissements pour l'éducation, des projets d'infrastructure, surtout en Afrique. Là, ce que j'ai vu, c'était beaucoup concentré vers les pays en Afrique, mais ou sinon instaurer des économies durables, ou d'aider plusieurs gouvernements pour instaurer des bonnes politiques. Fait que ça, c'est comme un peu la différence. Là, t'as okay. FMI, macro, puis plus Banque mondiale, développement. Ou sinon, tu sais, aux rencontres annuelles, ben, au FMI, il va y avoir des rencontres là, à huis clos qu'on peut pas pouvoir assister. C'est entre les 191 États membres qu'eux, ils vont comme participer à des séances plénières, puis ils vont débattre d'enjeux comme mondiaux. Mais ça, on n'y a pas accès. Et après ça, ben, la Banque mondiale aussi va avoir plusieurs conférences qu'on va pouvoir assister là, pour qui parlent de coopération internationale puis d'enjeux mondiaux. Fait que c'est un peu ça. Puis les deux bâtiments là, sont comme à côté. Fait que toute la semaine, on se promenait entre les deux, la FMI et la Banque mondiale.
C'est quand même assez proche. Hein?
Oui, mais c'est dans la même rue. Là. C'est tout comme dans le même carré à Washington. Là.
OK, ouais. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu comme Émile. Tu vas là, tu prends des notes, tu fais du réseautage. Puis après ça, tu rencontres des personnes quand même assez importantes pour représenter la jeunesse.
Exact, oui. Ben, y a plusieurs conférences qui rendent disponibles qui parlent justement des enjeux mondiaux. Mais après ça, il y a des opportunités de réseautage là, un peu partout dans les buildings. Tu peux juste aller rencontrer des gens puis leur parler. Je sais pas comment.
Ah ouais.
C'est difficile comme à expliquer quand justement tu n'y as pas été, mais tu peux littéralement t'introduire à n'importe qui là-bas.
OK.
Là, comme, hey, ce que tu as dit, je trouvais ça intéressant. Salut, moi
c'est
je suis.
C'est vrai. C'est quand même drôle. C'est des personnes quand même importantes qui doivent avoir un agenda assez serré.
Oui, ben, c'est ça. Aux assemblées, c'est des gouverneurs souvent ben, qui se rendent là, des ministres de pays qui se rendent pour représenter les intérêts de leur pays. Puis un peu aussi avoir le pouls là, sur la scène internationale de voir ce qui se passe dans les autres pays. Fait que les gens que j'ai rencontrés souvent, c'était quand même des hauts placés des autres pays. Mais tout le monde se déplace pour pouvoir faire ce réseautage-là. Fait que t'sais, tout le monde a intérêt à se rencontrer.
Ah, okay.
Puis, même si t'es plus jeune, t'sais, ça leur dérange pas. Ils sont comme, ah, oh, c'est intéressant.
Ben, tant mieux, parce que t'sais, on aurait peut-être pu penser, ah, c'est des jeunes. Ils sont pas du réseautage avec eux, c'est moins important, mais c'est le fun de voir qu'ils accordent quand même une importance à du monde comme nous. Là.
Mais oui. Tout le monde là-bas sont vraiment convoités. Là, comme chat, tu peux vraiment t'introduire à tout le monde. Moi, j'étais juste à côté de moi, c'était justement la directrice générale de l'OMC.
Ça, quand même,
puis chaque fois, j'essayais d'avoir une photo avec elle. Puis chaque fois, non, j'ai pas le temps. Puis là, je la voyais partir. Puis t'avais son attaché qui la prenait par le bras. Puis tout le monde était autour d'elle comme si c'était un morceau. Comme si on était des goélands autour d'une frite. Donc, c'est vraiment divertissant de voir que tu peux vraiment t'y rendre, aller parler à n'importe qui. Mais tout le monde est convoité. Fait que t'essayes. Puis là, faut comme t'es là attrayant, genre, oh, c'est important aussi, mais on est jeune. Enfin, c'est comme, c'est difficile. Exemple, je me rappelle ce son nom. Je devrais me rappeler de son nom. Mais c'est un secrétaire de l'administration d'Obama qui animait un panel puis il s'occupait de toutes les politiques économiques d'Obama. Puis à la fin, je suis arrivé, je me suis dit, bonjour, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Il savait pas du tout on était qui. Il comprenait rien de qu'est-ce qu'on faisait. Mais on prétend qu'on est là. Puis c'est ça qui est vraiment drôle qui sont vraiment accessibles, alors que c'est pas des gens accessibles.
Mais c'est ça, c'est peut-être qu'ils doivent voir que ben là, il s'est rendu là, fait
ouais.
C'est ça, il doit être important, tu sais, je sais pas.
Voilà.
C'est ça qu'ils se disent. Donc, pour continuer, est-ce que vous pourriez nous développer un peu davantage sur ce que vous avez fait sur place? C'est quoi les sujets qui vous intéressaient particulièrement? Là, il y avait ton hypothèse Charlotte, là, aussi, mais je suppose qu'il y avait sûrement d'autres trucs, tu sais, des sujets peut-être plus profonds qui vous ont poussé à aller là.
Oui, ben moi, j'ai vraiment été surprise là, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais en fait, moi, la lutte pour l'égalité homme-femme, c'est de quoi qui me tient vraiment à cœur en tant que féministe. Mais j'ai réalisé qu'une bonne partie des conférences, autant au FMI qu'à la Banque mondiale, traitaient de ce sujet-là, puis de cet enjeu-là, puis que c'était des conférences sur comment on fait pour régler le problème d'inégalité homme-femme dans le monde. J'ai plusieurs noms en tête, là, comme... Green Jobs for the Future of Work, ça, il parlait beaucoup de les inégalités hommes-femmes. Creating Jobs for Young People aussi, il parlait des femmes sur le marché du travail. Et il y en a d'autres noms comme Breaking Down Barriers to Women's Economic Empowerment. C'est comme des exemples de conférences auxquelles j'ai assisté. Puis, c'est ce que j'ai vu qui revenait souvent dans la discussion, peu importe les conférences, c'est même si on veut atteindre des missions de développement puis d'éradication de la pauvreté, ça va pas être possible si il y a des inégalités qui restent dans la société. Fait que tu vas pas pouvoir atteindre ton développement maximal si les femmes ont pas accès au marché du travail, ils ont pas accès aux mêmes moyens financiers que les hommes. Ça, c'est de quoi qui se répétait beaucoup. Puis ça m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais pas à ça nécessairement. Il y avait pas de de thème vraiment général là, cette année. Là. Il y avait comme plusieurs sujets, mais
okay.
Ça, c'est vraiment un sujet qui est revenu beaucoup, qui m'a vraiment surprise, là, puis ça m'intéressait beaucoup. Et, ou sinon, tu sais, il y a même la Banque mondiale qui m'a interviewé sur le sujet.
Ah ouais?
Parce que c'était après une grosse conférence, là, ils m'ont dit, comme, qu'est-ce que t'as retenu de la conférence? Là, j'étais comme, ce qui m'a marqué, c'est que d'apprendre que, tu sais, si les femmes intégraient le marché du travail et davantage, on pourrait vraiment gagner en productivité du travail, puis ça serait vraiment bénéfique là, pour les pays. Là. Puis même on avait rencontré un représentant de la Banque mondiale au Bangladesh, puis lui, il nous l'a dit, il était comme, tu sais, en Inde, au Bangladesh, et le taux d'emploi des femmes, c'est autour de comme 30-40%. Si on augmentait le taux de participation des femmes sur le marché du travail, le taux de croissance des pays pourrait augmenter de comme 2 à 3%, ce qui est comme énorme.
Ben, c'est ça, comme je parlais un peu avec Liliane, justement, dans notre podcast sur le féminisme, je connais pas trop la situation de ces pays-là, mais je peux supposer que si les femmes sont pas sur le marché du travail, ça doit être parce qu'ils font des tâches plus ménagères.
Oui.
Puis justement, ces tâches-là, ils sont pas comptées dans le PIB. Fait que ça fait qu'en sorte que le pays, dans le fond, les gens travaillent, mais vu que c'est pas compté, ils ont l'air d'avoir ils ont une faible croissance économique. Donc, je pense que ça vient chercher cet aspect-là.
La taille domestique n'est pas reconnue, c'est ça.
Non,
c'est... Comme sur le marché du travail. Mais là, ils ont aussi nommé plusieurs solutions. Là. On faisait pas juste parler des problèmes. Là. Il y en avait vraiment intéressant que je trouvais, c'était la sécurité dans les transports. Il y a beaucoup de pays que les femmes n'osent pas aller travailler parce que c'est pas sécuritaire de se rendre au travail. C'est comme des stations d'autobus pas éclairées la nuit ou des gens de trucs.
Il y a cet aspect-là qu'on parle pas beaucoup. Hein.
Oui, ça, c'est, je pense que c'était un ministre de l'Inde qui l'avait amené, celle-là. Ou sinon, le mariage d'enfants. C'est 14% des filles, des jeunes filles au Bangladesh. Ils vont se marier quand ils sont jeunes, fait que ça, ils vont pas retourner à l'école. Dans le système scolaire, c'est ça, il y a vraiment le problème de rétention des femmes enceintes. Fait qu'une fois qu'une jeune fille tombe enceinte, après ça, il faudrait qu'elle revienne sur les bancs d'école. Là. Mais ils n'arrivent pas à comme ramener ces jeunes filles-là. Fait que ça, c'est comme. Il y aurait une solution qui pourrait se trouver là, dans le fond.
Mm.
Mais bon, dans le fond, c'était principalement que, afin d'assurer le développement là, dans certains pays, c'est nécessaire de mieux mobiliser les ressources domestiques. Ça veut dire l'égalité homme-femme, l'éducation. Puis ça va pouvoir mettre fin à un cycle d'inégalité intergénérationnelle.
Mais c'est intéressant de voir qu'ils parlent de sujets comme ça, parce que c'est comme, je sens que tu t'en parles, moi j'étais comme l'FMI, la Banque mondiale, c'est comme des gros sujets, des grosses problématiques. Puis c'est le fun de voir qu'il y a vraiment des solutions plus pointues, plus concrètes, de vraiment on fait c'est ces affaires-là que ça va vraiment avoir un impact, même je sais pas comment dire, mais c'est juste ça a l'air comme plus des petites choses comparées au problème, mais dans le fond toutes ces petites choses-là mises ensemble, ça va régler le problème dans le fond.
Exact, c'est ce qui m'a surpris parce que je m'attendais à de quoi de super flou général dans les conférences, mais au final non, c'était vraiment des panélistes qui proposaient des solutions puis qui faisaient un peu des solutions qu'eux ont essayé dans leur pays, qu'ils le recommandent à d'autres pays. C'était vraiment inspirant pour de vrai.
Non, mais c'est le fun que tu aies pu vivre ça. Là. En tout cas, je pense que ça donne le goût à d'autres personnes d'aller faire ça.
Mm-hmm.
Donc, Émile, à propos de l'OMC, toi, c'était quoi?
Oui, en fait, moi, il y a vraiment deux sujets qui m'ont tenu à cœur de vous présenter. Puis, le premier, ça va être de parler un petit peu plus du protectionnisme, comme j'ai mentionné plus tôt. Puis après ça, j'ai un petit peu développé plus sur le commerce inclusif puis la question autochtone. En ce qui a trait au protectionnisme, de ce que j'ai entendu justement à partir des panneaux là-bas comme la présentation du rapport de l'OMC 2024, c'est que bien qu'on peut se dire que le protectionnisme, ça va protéger des emplois, ça va protéger l'économie interne, mais en réalité, ça va vraiment nuire à tous les secteurs qui vont dépendre des importations ou de l'accès au marché extérieur. C'est-à-dire que si tu fais du protectionnisme, en retour, faut s'attendre à recevoir du protectionnisme.
Ben, c'est ça.
Parce que c'est une logique de réciprocité. Là. On le voit dans nos cours. Puis on peut pas juste dire « Ah, moi, j'ai exporté chez toi, mais toi, tu peux pas. Moi, j'ai pas importé sans que tu payes des tarifs. » Tu comprends ce que je veux dire? On peut pas faire ça. Puis en faisant du protectionnisme, nécessairement, on va faire des déséquilibres, autant à l'interne, puis ça va affaiblir toute l'économie globale, puis ça va créer des distorsions ou réduire les opportunités d'innovation ou de croissance. Puis ben la croissance, c'est très important en économie, là, on en parle surtout.
C'est, ça,
c'est comme l'indicateur par excellence. Il y a plein d'autres indicateurs. Puis à l'OMC, il y avait justement un panel qui visait à voir quel autre indicateur on peut s'intéresser. Mais bref, la croissance reste le plus important puis le plus primordial. Puis ben aussi, ben le protectionnisme en soi, ben c'est par définition à l'encontre de tous les objectifs de l'OMC puis tous les objectifs d'inclusivité économique. C'est-à-dire qu'au lieu de renforcer les relations commerciales, ben ça va plus accentuer les tensions, ça freine la collaboration, ça va vraiment exclure des partenaires commerciaux essentiels. Puis ben à l'inverse, ce qui était présenté, c'est qu'il faut un commerce ouvert qui va vraiment être fondé sur les principes, sur les lois de l'OMC. Mais ça peut vraiment être une solution qui va être une solution clé pour relever des défis mondiaux. Puis là, par exemple, ben, je pense au développement durable, l'équité, puis aussi ben, tout ce qui va des questions de résilience, de chaîne de valeur ou la chaîne d'approvisionnement. Parce que si tu crées du exemple, t'as un pays, il exporte en Thaïlande. La Thaïlande met des barrières commerciales à ce pays-là, mais nous, on importe à partir de la Thaïlande. Ben, nécessairement, si ce produit-là sera en Thaïlande avant, ben, la chaîne de valeur va être ben, la chaîne d'approvisionnement plutôt va avoir une distorsion, on va pas pouvoir y aller directement plus rapidement.
Ouais.
C'est pour ça qu'on fait des accords commerciaux nécessairement avec les pays qu'on va aller chercher directement pour comme passer toutes ces barrières-là potentielles. Là, je dis la Thaïlande, je dis pas que la Thaïlande fait du protectionnisme, je le sais pas, mais c'est juste un exemple. Donc voilà. Puis ben l'objectif, c'est vraiment d'éviter tout ça. Puis ben malheureusement, ben aujourd'hui, ben on assiste vraiment à une inquiétante montée de tout discours vraiment populiste qui vont être associés à des mesures protectionnistes. Puis par ça, ben on peut penser à l'élection de Donald Trump, puis aussi à toutes les guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis. Puis ben c'est vraiment crucial de renforcer la confiance dans le système mondial.
Ah, mais c'est quand même assez intéressant. En plus, le protectionnisme, je pense que ça, en plus, ça a plein de dommages collatéraux sur la population, tu sais, vu que ça fait comme monter les prix, tu sais, vu que tu rajoutes comme une genre de taxe sur des produits, tu sais, fait que ça, je pense que ça peut en quelque sorte sûrement appauvrir la population. Là,
oui, c'est les consommateurs généralement qui vont payer le prix.
C'est autant dans les deux pays. Mais en tout cas, je suis content, on pourra continuer d'en parler après la pause déjà. Ça passe quand même assez vite déjà parler des jeunes diplomates, donc... Donc, vous étiez sur les ondes de chez 94.3. On se retrouve après la pause. J'étais en train de parler avec Émile, justement, du protectionnisme. Et je pense que tu n'avais pas fini avec ton sujet. Donc, c'est quoi qu'il faut faire pour ce sujet-là?
Ouais, ben, considérant que je parlais qu'il faut vraiment renforcer tout ce qui est de confiance mutuelle, puis dans le système multilatéral surtout, ben, il faut penser que l'OMC devrait peut-être évoluer, puis en réformant ses règles. Notamment sur la subvention, comme en devenant plus flexible, puis en incluant davantage les jeunes pour promouvoir un état d'esprit plus inclusif. Puis ça, ils l'ont fait. Ils ont commencé, ben, cette année, ce nouveau programme, ça s'appelle les Young Trade Leaders. Puis ils avaient présenté un panel qui c'était sur la diversité au travail, puis une perspective selon eux. Puis c'était très intéressant. Là, les Young Trade Leaders, c'est 8 jeunes qui viennent de partout du monde. Il y en avait un. Hugh Jones, son nom, si je ne me trompe pas, le Canadien. Il y en avait d'autres qui étaient... Il y avait un Français, il y avait une Chinoise, il y avait aussi une Australienne, quelqu'un au Nigeria. Bref, ils venaient vraiment partout dans le monde. Il n'y avait pas d'Américain, par contre. Il y avait l'homme qui le crie.
Non, hein?
Mais bref. Puis ils venaient tous présenter un petit peu leur perspective nationale puis par rapport à cette question-là sur les jeunes au travail. Puis vraiment, c'était un petit peu dans l'idée que si on encourage les gouvernements nationaux à embaucher plus de jeunes dans leurs administrations, puis surtout dans la prise de décision politique, ben ça peut apporter un nouveau regard sur les questions, puis plus d'inclusivité. Puis ben c'est un peu ça que l'OMC essaie de faire. Puis par rapport au protectionnisme, ben c'est un petit peu de montrer que si on a un visage nouveau, ben peut-être qu'on va pouvoir remodeler un petit peu la mondialisation, puis refaire confiance, parce que les jeunes vont avoir tendance à... Ben c'est comme ça dans toutes les générations, on a plus tendance à faire pas confiance à notre génération, mais on est plus hâte à aller vers l'autre puis à se comprendre parce qu'on a quand même... Même si on vient pas des mêmes places, on a tous des je dirais pas des mœurs, là, mais des choses en commun.
On veut plus être avec du monde de notre âge que des gens beaucoup plus vieux, mais ça, c'est ça, le contact est plus là.
Oui, c'est ça. Fait que, nécessairement, en diminuant la moyenne d'âge dans les administrations, ben ça va ouvrir plus d'ouverture d'esprit, nécessairement. Puis ben sans vouloir faire de l'âgisme, je pense que les jeunes sont plus ouverts d'esprit que les personnes plus vieilles. Donc, ça peut apporter des, ça peut participer justement au développement, puis ben à la croissance d'inclure les jeunes. Puis ben aussi ce que je voulais discuter, ben c'est pas juste au niveau structurel que l'OMC doit changer, parce que ben on veut apporter plus de commerce inclusif. Puis ça, c'est mon deuxième sujet que je voulais vous parler. Puis ça, le commerce inclusif, ben c'est comment on peut rendre profitable au plus grand nombre possible, c'est-à-dire les pays en développement surtout, parce que les pays développés contrôlent le système international, surtout les États-Unis.
Ouais, comme on voit
notamment, ouais, ça, notamment en contrôlant l'organe d'appel. Mais ça, c'est un sujet que je vais pas rentrer en détail parce que c'est étonnant, il y avait pas de panneaux sur tout l'organe de règlement des différents.
Non.
Pendant le forum public, c'est curieux, c'est dommage parce que ça a été très intéressant. Mais j'en ai pas su plus par rapport à ça. Mais bref, où je veux en venir, c'est que le commerce inclusif, on veut ouvrir le commerce à plus de personnes possibles, les pays en développement qui en profitent plus, les femmes, les jeunes, puis ben notamment les communautés LGBT, etc. Puis ça cherche un petit peu à répartir de manière équitable les bénéfices du commerce mondial, puis ça peut être aussi en intégrant les PME. Puis ben ça vise surtout à réduire les inégalités économiques entre les pays, entre les classes sociales par définition. Puis ben ça va vraiment favoriser un modèle de croissement qui va être de développement durable. Puis ça va avoir une croissance qui va vraiment être partagée à l'échelle nationale plus qu'au niveau mondial. Donc ça, c'est vraiment profitable à tout le monde. Puis comme disait Charlotte justement par rapport aux femmes, s'il y a plus de personnes qui travaillent, parce que t'inclus les femmes dans le marché du travail, ben il va avoir de la croissance, puis c'est pareil au niveau mondial. Plus t'inclus de personnes dans le commerce, mieux c'est.
Donc c'est d'inclure aussi d'autres, c'est un peu comme Charlotte a dit, c'est d'inclure d'autres personnes, qu'est-ce que tu parles aussi?
Oui, c'est ça. C'est ça,
parce que c'est ça, je me demandais c'était quoi plus concrètement?
Ben, de manière plus concrète, ben, ça serait, il y a des politiques qui ont été adoptées, là, ça s'appelle les SGP, puis ça c'est comme les systèmes généralisés de préférence. À première vue, ça va un peu contraire à l'esprit de l'OMC, mais il faut comprendre qu'il y a comme un déséquilibre historique à cause de la colonisation, puis les pays du Sud, comparativement aux pays du Nord, qu'on pourrait dire. Puis ben, c'est des programmes qui, en fait, les pays en développement vont accorder des droits de douane préférentiels aux pays où que c'est des pays en développement. Donc, tu vas nécessairement donner des tarifs préférentiels aux pays qui sont plus pauvres. Puis ben ça va comme encourager l'exportation puis l'importation en ces pays-là. Puis nécessairement, ça va faire de la croissance puis ça va comme rétablir l'équilibre. Fait que c'est nécessairement, tu fais un traitement favorisé, mais vu qu'il était déjà défavorisé à la base, tu viens rétablir l'équilibre. Puis c'est ça le commerce inclusif, c'est d'encourager ça. Puis sinon, il y a aussi des accords de facilitation des échanges qui sont entrés en vigueur en 2017. Là, c'est quand même assez nouveau, surtout à l'OMC, ça prend beaucoup de temps pour négocier, là, vu que c'est « member driven ». Ben où on vise surtout à simplifier puis ben vraiment à harmoniser les procédures de dédouanement, puis ben ça c'est pour les petites entreprises, donc ça va favoriser le commerce eux pour qu'ils exportent plus.
OK, ouais, pour comme stabiliser entre les grosses multinationales puis les petites entreprises qui ont de la misère.
Ouais, c'est ça, parce que les multinationales ont plus de moyens, ils ont de l'argent, ils peuvent s'implanter directement à l'étranger, puis c'est plus facile de contourner les mesures administratives, ils ont des avocats, etc. Ouais, alors que ben, les PME, ils ont pas ces moyens-là de le faire, mais ils veulent quand même exporter dans d'autres marchés.
Mais c'est fun de voir qu'il y a quand même une volonté d'amener des entreprises à niveau, à échelle plus humaine quand même, sur le marché international, c'est pas juste créer comme un genre d'oligopole de grosses entreprises.
Ouais.
Je pense que c'est une bonne affaire, là. Puis tu parlais des tarifs préférentiels, mais tu sais, c'est vrai que c'est quand même une bonne idée, mais est-ce que tu sais si ça pogne comme politique, tu sais, dans les pays? Parce que, me semble, je sais pas, tu sais, dans la politique interne d'un pays, quand surtout comme les personnes, tu sais, qui bénéficient pas de ce tarif-là, ben, tu sais, ça nuit parce que, justement, on importe des produits de pays en développement.
Mm-hmm.
Ben, là, tu sais, ils vont chialer là-dessus. Puis je pense que, j'ai l'impression que ça a un peu de misère à passer, justement, à cause de ça.
Ben, je pense au niveau de politique nationale, je pense pas que les gouvernements en parlent à leurs nationaux, mais je pourrais comprendre qu'un pays en développement par rapport à un autre pays en développement, il a l'impression que lui, ben, ses produits seront pas mis autant en valeur parce que l'autre a un tarif préférentiel. Sauf qu'il faut comprendre que l'autre pays en développement nécessairement est soumis à cette loi-là. Donc, ils ont comme tout acquiescé ensemble à faire partie de cet accord-là. Ben, je n'ai pas l'impression que politiquement, il doit avoir des problèmes au niveau international. Ils ont tous pris cette décision-là par consensus. Fait que nécessairement, ils étaient d'accord à s'y soumettre. Mais par contre, en termes de politique nationale, c'est-à-dire que si il y a des gens qui peuvent avoir des réticences au fait qu'on diminue les tarifs, puis c'est par rapport justement au protectionnisme puis au populisme que je parlais, que les gens pensent que ça va les protéger.
Ben c'est ça.
Puis en soi, ça se comprend parce que c'est vrai de dire que les entreprises nationales, ils perdent au jeu du libre-échange un peu, mais en réalité, en tant que consommateur, puis en général, ça va être, c'est-à-dire les consommateurs sont surtout les électeurs, mais c'est eux qui vont gagner. Fait que c'est juste une certaine, un certain jeu de lobbyisme puis de pouvoir entre les nationaux et les gouvernements qui va amener à créer du protectionnisme. Alors que en réalité, ça bénéficie à tout le monde d'ouvrir les marchés, puis aussi pour les entrepreneurs de pouvoir exporter dans d'autres pays plus facilement. Parce que ça fait juste créer un marché qui est plus gros.
Ben, c'est sûr.
C'est pas parce qu'il est plus gros qu'il est moins bien gérable, c'est juste que t'as plus de possibilités de t'étendre partout.
Ça, puis tu peux plus produire après, là, comme on voit
puis,
dans nos cours. Là.
Les plus grosses entreprises vont jamais se plaindre du protectionnisme. Ben, en fait, non pas du protectionnisme, mais du libre-échange. C'est généralement, c'est justement les PME qui vont s'y plaindre, mais justement, là, on offre des mesures qui vont permettre de pouvoir mieux apprécier le libre-échange puis de venir rebalancer la structure internationale de commerce.
Ça, c'est quand même bien sur cet aspect-là.
Ouais.
Puis, tantôt, tu nous as parlé de la question autochtone.
Oui.
Pourrais-tu nous développer un peu là-dessus?
Oui, ben en fait, ici, je fais vraiment référence à un panel auquel j'ai assisté qui était vraiment directement organisé par Affaires mondiales Canada. C'est un peu ironique, mais c'est en partenariat avec la Nouvelle-Zélande. Puis le thème du panel, c'était le commerce autochtone, partager les expériences, explorer les possibilités. Puis ben, je commencerai en disant que le commerce inclusif, ben comme je l'ai dit plus tôt, c'est pour inclure tout le monde dans le commerce. Parce que, comment je peux dire? Le commerce autochtone et le commerce inclusif, c'est deux choses différentes, okay. Surtout aux yeux des personnes autochtones, parce que ben c'est en s'appuyant sur des structures qui sont déjà existantes que le commerce inclusif ben, vise à fonctionner le commerce pour tout le monde. C'est-à-dire que tu vas prendre la structure, tu vas essayer de la modeler puis l'adapter, justement en faisant les accords préférentiels. Ben oui, les accords préférentiels ou la facilitation des échanges. Puis ça va viser à faire que le commerce fonctionne pour tout le monde. Sauf que la structure internationale du commerce n'est pas adaptée, puis elle exclut les peuples autochtones. Donc, okay. De toute façon, les forcer à rentrer dans cette diversité-là, alors qu'ils ne sont pas la diversité, puis la structure n'est pas adaptée pour eux. Elle fonctionne juste pas.
OK, fait que ça ne fit pas. Là.
Oui, exactement. Puis, ben, nous, on veut créer un système qui fonctionne pour eux, qui va être selon leur propre terme, puis qui va être construit avec eux. En fond, c'est ça que le panel voulait mettre de l'avant. Okay. C'est-à-dire qu'on veut reconfigurer le système, puis on veut que ce soit selon qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Parce que chaque fois, ils ont été exclus des négociations. Par contre, il y a l'accord de l'accord nord-américain là, de ben, anciennement l'ANEA, la CEM aujourd'hui, ouais. Là, l'accord est Canada, États-Unis, Mexique, qui a certaines clauses sur le commerce autochtone puis qui ont été font fait partie des délibérations, mais c'était juste ben, je pense qu'ils ont fait partie des délibérations, mais c'était indirectement là. C'était vraiment, ouais. Un conseil de genre un groupe de travail là. c'était pas
vraiment aux tables de négociation.
Non, c'est ça, il y a eu des groupes de travail qui ont été consultés, mais c'est pas suffisant. Puis ben c'est ça. Fait que j'ajouterais que la conception de cette nouvelle structure-là, ben, elle doit être réalisée en mettant l'accent en fait sur toutes les valeurs d'autodétermination. Puis ben, où que je veux en venir, c'est que ben l'apport des communautés autochtones, ben il y a vraiment de l'apport des communautés autochtones, ben eux, ils ont une méfiance envers les institutions qui résultent de toute cette exclusion-là, puis de la perte de richesse intergénérationnelle. C'est-à-dire que il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Puis c'est ça que les personnes sur le panel qui disaient, puis c'est des autochtones qui parlaient, puis ils disaient que on n'a pas confiance en vous parce que toutes les fois qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné. On s'est fait exclure.
Okay.
Fait que là, nous, on veut ça, puis on veut faire partie. Fait qu'il faut vraiment que ça vienne de eux, puis ça sert à rien que nous, on les force, parce qu'ils n'ont pas confiance. Il y a une méfiance, quand quelqu'un de la méfiance, ben...
C'est vraiment, mais c'est comme tu disais, c'est vraiment ça. À refaire. Là,
oui, il faut vraiment reconstruire ce système-là. Puis, par rapport à toute la perte de richesse intergénérationnelle, ben c'est assez pertinent, parce qu'il y a un des panélistes ben, qui s'appelait M. Fabien Amaru Mwenala. Excusez-moi, sinon, c'est un artisan quichua d'Équateur. Puis ben lui, il a apporté un point de vue qui était assez très intéressant puis qui était très touchant. Puis ben lui, il parlait vraiment de l'importance de respecter toutes les expressions culturelles autochtones. Puis il parlait vraiment de son vécu, puis il expliquait que les obstacles que représentent le manque d'infrastructures et l'absence de réseaux commerciaux directs pour les artisans autochtones, ben ça créait des barrières.
Okay. Dans le fond, il était... C'est quoi que tu veux dire par là?
Ben, en fait, c'est parce que les entrepreneurs autochtones, ben eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est de commercer directement avec d'autres communautés autochtones. C'est-à-dire qu'ils veulent pas passer par la structure préétablie par les gouvernements nationaux. Ils veulent aller dans d'autres communautés puis échanger entre eux.
Okay.
Ils veulent comme créer une sous-division de la structure internationale.
Mais c'est comme du commerce parallèle au commerce qu'il y a déjà.
Oui, c'est ça. Ouais, parce que si t'as pas confiance envers la structure, ben tu veux pas l'utiliser. Puis eux, qu'est-ce nécessairement... C'est pas réaliste de recréer une autre structure complète. Puis c'est pas réaliste pour eux de les inclure dans cette structure-là. Donc, okay. L'option qui s'offre à nous, ce serait de faire justement cette structure parallèle-là pour les Autochtones, qui va être gérée par eux. Puis qui font. Fait que c'est comme. Puis là, il y a plein de problèmes par rapport justement à la souveraineté nationale. Comment on fait pour que ces personnes-là, que, entre guillemets, je dirais, non élues, parce que c'est pas des gouvernements, mais que la société civile échange entre eux sans passer par des barrières tarifaires qui sont appliquées
à tout le
pays, etc. Puis, il apportait aussi que, vous pouvez... Il parlait un petit peu de... Comment je peux expliquer? Il parlait de toutes les personnes qui disaient, mais venez, on va vous inclure. Vous n'arrivez pas à exporter, faites du commerce électronique.
Du commerce électronique?
Oui, c'est ça, c'est une autre... C'est comme tout Amazon, etc. Vendez en ligne. Si vous n'arrivez pas à vous parler ensemble, développez vos possibilités. Sauf que la majorité des artisans autochtones que lui, qu'est-ce qu'il disait de son vécu, c'est qu'ils vivent dans des régions éloignées. Ils n'ont pas nécessairement, même pas accès à l'eau. Il y a des gens au Canada qui n'ont pas accès à l'eau. Là, tu leur demandes...
C'est bizarre de penser ça quand même. Hein?
Fais un effort pour... utilise l'Internet puis va vendre en ligne. Mais c'est parce qu'ils vivent en... Eux, ils vivent en forêt. Là. Il y a vraiment des communautés éloignées qui vivent en forêt. Comment tu fais pour offrir ces solutions-là? Fait que c'est vraiment de développer les infrastructures, puis de créer une structure parallèle pour les inclure dans ce commerce-là. Puis c'est vraiment ça que le panéliste apportait comme solution. Puis ben ces solutions-là doivent vraiment venir des communautés elles-mêmes. Puis ça, ben avec des réseaux spécifiques aux Autochtones pour faciliter le commerce.
Puis est-ce qu'il y a des avancements là-dessus? Qui ont été faits, parce que tu sais, on voit que c'est un peu comme un projet, ça a l'air un peu embryonnaire, je pense, mais.
Ouais, ben, à ma connaissance, c'est la première fois que j'en entendais parler, puis ça m'a vraiment surpris de ne pas savoir ça plus, mais j'ai pas plus d'informations, j'ai pas nécessairement fait plus de recherches par rapport à ça. Mais oui.
Oui, si je peux rebondir sur ce qu'Emile racontait, là, moi, ça me fait vraiment penser là, un peu à ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai entendu à la Banque mondiale pour FMI. Si tu racontes que ils ont laissé la voix à des gens qui ont vécu des expériences pour exprimer, tu sais, c'est quoi en réalité? Tu sais, oui, il y a des projets d'inclure les communautés autochtones, mais en réalité, il y a des freins, il y a des obstacles. Ça, je trouvais ça intéressant que, à la Banque mondiale, ils ont pas fait fi des obstacles. Fait que, tu sais, c'est pas juste comme, on a des projets, on va investir de l'argent, puis ça va bien aller. J'ai trouvé ça intéressant qu'ils apportent un peu un point de vue réaliste là, de la chose. Et c'est un peu ce que j'ai vu dans une conférence sur l'éducation en Afrique. Il parlait qu'il voulait vraiment qu'il y ait plus d'éducation chez les jeunes filles, puis il essaie de comprendre c'est quoi qui fonctionne pas, pourquoi les jeunes filles partent de l'école. Mais en réalité, ça revient toujours aux valeurs et aux normes sociales.
Ouais, c'est vrai ça.
Oui. Tout le temps, aux valeurs normes sociales, ils ont beau investir de l'argent pour qu'il y ait plus d'enseignants, pour qu'il y ait plus d'écoles, il va tout le temps avoir d'autres freins. comme un peu les Autochtones, tu sais, comme tu parlais, qu'ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont même pas accès à l'électricité. C'est comme, tu as beau investir de l'argent dans la chose, si concrètement ça ne fonctionne pas, c'est,
ouais, non, c'est
à cause
c'est
d'un système qui est déjà préétabli depuis des générations, ben, c'est difficile d'inclure puis de faire favoriser le développement. Puis moi, ce qui m'a un peu marqué comme exemple, là, qui démontre vraiment bien la chose, là, mais qui est très, très triste malheureusement, c'est qu'en Afrique, je ne me rappelle plus c'est quel pays, et ils ont investi beaucoup d'argent pour créer plus d'écoles, justement embaucher plus d'enseignants, mais il y avait un problème de violence à caractère sexuel envers les jeunes femmes.
OK, ouais.
Puis là, après ça, c'est comme, bon, ben là, il faut investir de l'argent pour mieux encadrer les professeurs. Parce que, peu importe, c'est les innovations qu'ils amenaient, il y a tout le temps les valeurs, les normes qui ne changent pas. Fait que c'est...
Mais ça, faut que tu règles les problèmes de façon plus pointue, comme on disait tantôt, avec pour amener les femmes sur le marché du travail, c'est pas... Il faut vraiment que tu ailles chercher plein de petites solutions pour régler le gros problème. Je pense que c'est pas une grosse solution qui va venir régler le gros problème.
Ouais. Mais malgré ça, des fois, les petites solutions, la culture ne va pas changer du jour au lendemain, et que ça rend ça difficile. Il y avait une ministre qui, elle, justement, parlait de sa place au marché du travail. Elle racontait que quand elle rentrait dans son bureau d'ingénierie, il n'y avait pas de toilette pour les femmes.
Aïe.
Ça n'existait juste pas parce qu'elle était la seule femme. Donc, t'as beau vouloir avancer les choses, si la culture change pas, c'est vraiment, vraiment...
Mais tu sais, je pense au moins, en commençant quelque part comme ça, comme je sens qu'il y a une femme là, ben que ça va commencer, je pense, à rentrer dans les mentalités, puis oui. à se faire, tu sais.
Totalement. C'est juste que je trouvais ça très intéressant que on parle des obstacles à la Banque mondiale.
Ouais, c'est vrai que c'est quand même...
Qu'on parle des freins, puis de la réalité des choses, tu sais, c'est pas juste comme, ah oh, oui, on met de l'argent, ça va être parfait, et ça va être réglé. Non, il y avait un peu l'envers de la médaille. OK, ça peut que ça fonctionne pas. Un peu comme avec le témoignage de l'Autochtone là, que oui. tu as vu à l'OMC. Fait que ça, je trouvais ça intéressant que dans les deux organisations, c'était pas juste super optimiste puis on pète des nuages.
Mais c'est ça, en plus, on a souvent tendance à penser ça des institutions internationales. Que c'est souvent, c'est vraiment vu que c'est gros puis c'est à grande échelle que ça peut souvent devenir abstrait, justement. Justement, vu que c'est moins comme proche du monde, t'sais, vu que c'est comme pas des gouvernements nationaux. Mais tu sais, c'est fun de voir que justement, il y a des solutions vraiment plus, tu sais, terre à terre, je pense qu'on peut dire.
Oui, puis qu'elles sont un peu transparents avec les problèmes, qui n'hésitent pas à en parler. Fait que ça, je trouvais ça quand même assez intéressant.
Justement, par rapport à ça, que tu disais, les institutions internationales sont super grosses, on dit qu'ils sont inefficaces et tout, mais en réalité, chaque institution a des programmes. Puis c'est ces programmes-là qui vont faire vraiment des. C'est un petit peu l'administration publique, là, comme on le voit, là, c'est les fonctionnaires. Mais il y a des fonctionnaires des organisations internationales qui, eux, font vraiment des choses concrètes puis qui appliquent les grandes résolutions puis les grandes lignes de blabla qui se dit à l'international. Mais parce que nous, on voit le blabla, puis la personne normale voit le blabla, mais il voit pas les actions concrètes qui sont prises. Fait que là, on dit, ah, ben l'ONU est totalement inefficace. Oui, mais l'ONU a plein de programmes sociaux.
Ouais, c'est sûr.
Qui s'en va directement aider sur place, puis ben c'est pas parce que du côté sécuritaire, l'ONU a échoué à d'autres places. Puis c'est pareil pour l'OMC. C'est pas parce qu'au niveau du respect des lois commerciales qu'elle a échoué là avec l'organe d'appel, mais ça, elle a échoué à cause d'un pays quelconque qu'on n'a pas besoin de nommer. Mais ce pays-là a des intérêts de le faire, puis sont tout à fait légitimes. Là. Tout pays c'est légitime qu'il y a des intérêts. Mais il reste que l'OMC a des programmes. Puis la Banque mondiale, justement, comme dit Chat, a des programmes, puis ils essayent, puis ça se voit que s'ils sont au courant des problèmes, puis qu'ils font pas là, ils font pas juste investir à l'aveugle, ben ça démontre une certaine compréhension, puis qu'ils sont pas totalement désuets, puis qu'en plus de pas être désuets, ben ils se croient pas pour d'autres personnes, que ah oui, j'ai changé tout, là, je peux changer le monde.
Non, mais c'est ça, puis tu sais, justement, je pense qu'on prend peut-être trop pour acquis, tu sais, la prospérité que ça nous donne, ces institutions-là, on est tellement habitués de vivre là-dedans que d'après moi, le monde, il doit sûrement oublier. Puis ça doit être pour ça que justement, peut-être qu'il y a une montée justement du protectionnisme. Puis tu fais, ben là, les institutions internationales, ça sert à rien. On y met de pas payer pour ça, tu sais.
Ben, je pense que 90% de la population mondiale aujourd'hui n'a jamais vécu sans ces accords-là. Du GATT, exemple, il reste combien de personnes qui sont plus vieilles que 1947, je pense. Bon, je veux dire qu'il doit rester 10% sur Terre qui sont nés avant 47, peut-être sûrement plus, sûrement beaucoup plus. Mais il reste que. Ils n'étaient pas assez vieux pour voir que ça avait un impact sur eux. Puis on l'a vu dans les années 90, l'explosion des échanges commerciaux, puis la mondialisation, puis la croissance partout dans le monde. Puis la situation s'améliore partout. Mais c'est juste que là, on fait face à des problèmes, mais on voit pas à long terme. Parce qu'on voit trop à court terme, puis ça peut être causé justement par toute n'importe quelle structure nationale d'élection qui dure juste 4 ans. Ben en fait, t'es élu pour 4 ans. Tu veux montrer que ce que t'as fait en 4 ans, genre c'était de la chance, sauf que le problème, c'est qu'on agit trop à court terme, puis on pense pas à long terme. Puis ben ça, c'est sûrement pour des raisons électoralistes. Puis à l'inverse, tu vois des pays comme la Chine, que c'est un modèle à un parti, que ça... Ben, je sais pas si c'est une dictature, mais ça frôle la dictature, que lui... Ah, mais c'est drôle, il y a un plan pour 2050. Il y a un plan pour les 10 prochaines années, alors que nous, ben le plan de 2027-2028 a été annoncé genre l'an dernier.
C'est ça notre long terme, nous autres.
Il sait pas si lui, dans 2027-2028, va être encore élu, fait qu'il va agir à court terme. Puis c'est ça le désavantage, selon moi, de tout ce qui est démocratie libérale, alors qu'au niveau institutionnel, organisationnel, mondial... Ben, eux, ils vont agir à long terme. Mais on va pas voir tout de suite les conséquences.
Même si la dictature
est bien
très
fait,
nuisible pour l'humanité, je pense que ça, il y a des avantages pareils sur cet aspect-là.
Exactement.
Donc, pour terminer, il nous reste 5 minutes. Je serais intéressé à savoir si vous avez des anecdotes de vos expériences que vous avez eues dans le cadre de ces activités-là.
Oui, je peux en partager une. Puis c'est un peu une anecdote qui m'a fait réaliser que en tant que jeune étudiante ou juste faisant partie de la jeunesse là, que les jeunes ont intérêt à être dans ces milieux-là, puis qu'on a notre place là vraiment dans ce genre de domaine-là. Et moi, ce qui est arrivé dans le fond, c'est juste que j'étais en train de prendre un café, là, j'entends parler français. Il faut comprendre que moi, le fait que je parle français, puis que mon anglais est pas parfait, ça me stressait beaucoup au début, parce que toute la délégation parlait en anglais, puis là, je me disais, est-ce que les gens vont me comprendre, est-ce que...
ça peut être inquiétant.
Oui, fois, c'est un petit peu un frein quand, mettons, t'es dans un meeting, puis t'arrives pas à trouver le mot précis pour poser ta question. Moi, par exemple, je voulais poser c'est quoi votre parcours scolaire, mais j'avais oublié c'était quoi comme parcours en anglais.
Ah, c'est des petites affaires niaiseuses, hein?
Fait que là, t'sais, j'ai pas posé ma question, finalement, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire, le français, c'était un peu... ça me stressait un peu au début. Mais là, quand j'ai entendu deux Français parler ensemble, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est my time to shine. Là. Je vais aller les aborder. Fait que là, il y en a un qui est parti. Là, je vais voir l'autre. C'était comme un monsieur, je dirais, 60aine. Là. Je m'introduis. Je suis comme, ah, je vous ai entendu parler français. Puis là, il se met à me parler. Puis il s'appelle Pierre. C'est un représentant du Guatemala. Il était ingénieur. Puis lui, il a travaillé comme dans la diplomatie toute sa vie. Il a travaillé en Australie, travaillé en France aussi. Fait que là, sa famille est rendue partout parce que lui, il change tout le temps de pays. Là, je trouvais ça tellement impressionnant. Puis il me parlait de quoi faire si je veux travailler à la Banque mondiale, au FMI. Puis il me donnait plein de conseils. J'ai même parlé de justement de la langue là, dans ces milieux-là parce que lui, il disait que c'est vrai que des fois, quand tout le monde parle en anglais puis qu'il est seul, lui, francophone, mais ça peut le désavantager un peu. Mais ça va vraiment l'avantager pour avoir des emplois comme à l'international. Lui me dit, oh, mais Charlotte, si tu veux travailler comme en Afrique, bien, il y a beaucoup de pays francophones, c'est super intéressant.
Le fait d'être bilingue, je pense que ça aide.
Oui, puis il a vraiment comme réussi à me faire changer de perspective sur ma langue, là, de le voir vraiment plus comme un avantage qu'un désavantage. Puis aussi le fait que j'ai pu connecter avec quelqu'un autant facilement juste parce qu'il parle français. Je l'ai vu comme un petit plus. Là. Mais ça, c'est vraiment une rencontre, une discussion de 30 minutes qui m'a vraiment comme mis en confiance. C'était au début de ma semaine. Puis ça m'a vraiment prouvé, OK, ben Charlotte, t'as ta place cette semaine aux rencontres annuelles. J'en ai d'autres, là, d'autres rencontres exceptionnelles que j'ai faites, comme un journaliste qui travaillait comme accrédité à la Maison-Blanche, qui m'a demandé d'écrire un article de journal pour lui. Là. Mais
ah ouais.
Je n'ai pas raconté beaucoup
c'est
celle-là.
Fou, ça. Je serais pas au courant.
Non, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas trouvé le temps d'écrire l'article. Puis là, après ça, j'étais décidé moi-même. Mais il y a un article. Ben, lui, il y a un journal qui publie plusieurs articles. Puis là, il était comme, oh, voici ma carte d'affaires. Puis là, il était comme, c'est intéressant. Puis là, il voulait full m'impliquer dans ses projets. Je suis sûr que si je le contacte, comme dans le futur, qu'il va être réceptif, il va me réécrire. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant. Que les gens soient ouverts à parler à des jeunes étudiants comme moi qui deuxième année de bac. Oui, vraiment là. Fait que c'est pas mal ça là, mes anecdotes.
Toi, Emile, est-ce que tu avais une
anecdote? Ben par rapport à la langue justement, moi c'est assez cocasse là, je trouvais ça drôle le fait que on s'assoyait dans des grandes salles, des grands amphithéâtres, puis là, chacun avait son bureau. Puis qu'est-ce que je trouvais drôle, c'est que t'avais l'oreillette. Puis là, tu pouvais choisir en quelle langue tu voulais l'écouter.
Ah,
c'était
tellement...
Ça parle en anglais, c'était traduit automatiquement en français. Puis c'était pas juste d'un côté, parce que plus tard, il y avait des personnes qui posaient des questions. Puis quelqu'un, il parlait dans une langue que je ne connais même pas. Là, puis il venait du Congo, là, ça devait être une langue locale. Et dans mon oreille, ça l'a traduit en français directement.
Ah, ouais.
Comme ça, c'était génial.
Ouais, c'est fou.
C'est
ça démontre que... Puis aussi, le français, c'est la langue de la diplomatie en général. Dans l'Union européenne, c'est une langue officielle qui est priorisée avant même l'anglais.
Ah,
puis
ouais,
okay. C'est une langue qui est nécessaire à l'OTAN. À l'OTAN, ils demandent que les gens parlent français et anglais en général. Donc, je pense que c'est tout qu'un avantage de parler français.
Ah, vraiment. En tout cas, c'était vraiment fun de parler des jeunes diplomates du Canada avec vous. J'espère que ça a donné le goût à d'autres biapristes de le faire. Ça a vraiment l'air intéressant. T'sais, avant que vous le fassiez, je savais même pas que ça existait. Puis maintenant, ça a l'air quand même le fun, surtout avec le réseautage qu'on peut faire.
Mm-hmm.
Donc,
même au sein de la délégation, là, j'ai juste précisé aussi que j'ai fait tellement des rencontres exceptionnelles avec mes co-délégués.
Pareillement.
Pour de vrai, je le recommande à tout le monde qui veut essayer. N'hésitez pas à venir voir Emile ou moi si vous voulez des conseils pour les entrevues ou l'inscription. Là, parce que moi, je recommande à n'importe qui.
Ah, c'est vraiment le fun. En tout cas, ben, merci d'être venu à l'épisode. Ce serait le fun de vous recevoir. Donc, c'était tout pour l'épisode numéro 9 d'A priori sur les ondes de chaise 94.3. On se voit la semaine prochaine. Salut.